Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Voici la suite de Celle que vous croyez, roman de Camille Laurence, édité chez Gallimard en 2016. Donc oui, Chris. Assez vite, mais avec beaucoup de délicatesse, il m'a demandé une photo de moi parce que, disait-il, il avait besoin de me voir. Comme le visage était dissimulé sur celle de mon profil, il m'a proposé de lui en envoyer une en message privé, car il comprenait très bien que je ne veuille pas me montrer à n'importe qui. Je pense même que ma timidité lui plaisait, que ce secret l'excitait, le touchait peut-être. Il voulait une femme pour lui, une relation privilégiée, comment le blâmer? Avant de me demander ma photo, il avait commenté celle de mon profil où on ne voyait que mes cheveux. Il imaginait la fille forcément belle qui se cachait derrière l'objectif, sous ce casque de jet, mais il préférait en avoir la preuve. La photo? Vous voulez dire la deuxième? Non, rien de spécial, pourquoi? Je l'ai choisie au hasard, oui, comme la première. J'ai tapé « belle fille brune » sur Google Images et des dizaines de jolies filles sont apparues, plus ou moins dénudées. J'en ai pris une sage, évidemment. C'est tout. En fait, si j'y réfléchis bien, Chris a dû mettre assez longtemps quand même avant de me réclamer une photo, plusieurs mois, alors que nos conversations avait lieu au moins 3 fois par semaine sur Facebook. Cela ne devait pas lui déplaire de m'imaginer, de rêver sur un visage masqué. Il y a des hommes comme ça. Il y en a de plus en plus, non? Qui préfèrent imaginer plutôt qu'étreindre, sans qu'on sache toujours si c'est par peur d'être déçu ou de décevoir. Mais j'exagère, car je me souviens que dès février, il m'a laissé un message pour me dire qu'il montait sur Paris quelques jours et me proposait de prendre un verre. Je lui ai répondu, bien obligé, que je partais à Milan pour la Fashion Week. Dommage. Je lui ai aussi demandé pourquoi il venait à Paris, si c'était pour son prochain départ. Il m'a dit que oui, qu'il partait bientôt avec son pote Joe, qu'il réglait les dernières formalités, passeport, vaccin. Il était aussi déçu de ne pas me rencontrer, mais ce serait pour une prochaine fois. Non? Non, rien. C'est juste que... Vous voyez, par exemple, une expression comme « sur Paris »,« monter sur Paris », ça me hérisse normalement. Mais avec Chris, même si je la notais, je ne pouvais pas faire autrement, j'en éprouvais une espèce de satisfaction érotique, comme si nos langues se mêlaient physiquement, en une tendre lutte. Je m'efforçais de parler, plutôt d'écrire, comme lui, pour ne pas l'alerter, mais mon désir se fondait sur cette différence et s'en augmentait. Un peu comme on tombe plus vite amoureux d'un accent étranger, d'une intonation inconnue. On est touriste en amour, on cherche l'autre et l'ailleurs, et on les trouve d'abord dans la langue. Au fait, vous avez déjà rencontré Michel? Un petit gros chauve qui a toujours un dictionnaire sous le bras. Il est là depuis la nuit des temps, il paraît. Il étudie l'étymologie, l'hébreu surtout. Hier à table, il nous a dit qu'Amen, ça voulait dire « j'y crois ». Merveilleux, non? Faudrait finir toutes ces phrases comme ça, surtout quand on parle d'amour. Amen. Je vous aime. Amen. Bon, malgré la douceur que me procurait ce lien pourtant fictif avec Chris, je dis fictif, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il était vrai aussi. C'était un vrai lien qui me faisait du bien. Malgré cela, je souffrais toujours de la désaffection de Joe. L'idée qu'il allait bientôt partir sans même m'avoir rappelé m'était insupportable. Alors j'ai rassemblé mon courage, ou ma folie, comme vous voulez, et la semaine suivante, je lui ai envoyé un SMS. Il m'a répondu tout de suite « Salut toi, je pars loin. Si tu veux jouer une dernière fois, c'est ce soir minuit chez toi. » J'ai dit oui, que je voulais bien. Il y avait plusieurs mois que je ne l'avais pas vu. Il était beau, bronzé, iodé, excité à l'idée de s'en aller. Il n'était déjà plus vraiment là. Joe vit comme tout le monde dans l'instant présent. Mais à la différence des autres, il y jouit non pas du présent, mais de la certitude, dans le présent, que l'avenir va le rendre heureux. Son présent est une projection perpétuelle vers un lendemain qui chante. Son présent est magnifique parce qu'il est tapissé de perspectives. Ainsi, quand nous avons couché ensemble, le soir, j'ai fait l'amour avec un fantôme. Lui était déjà sur les plages de Goa, entouré de teenagers dont il était le héros. Il trafiquait des pierres précieuses, montait un groupe trans qui le rendait célèbre, devenait champion de surf, que sais-je. C'est tout Joe. Il vit heureux aujourd'hui de choses qui n'arriveront jamais. Joe, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Il ne se rend jamais à l'évidence de son impuissance. Jamais. Il est dans le déni constant de la perte. C'est ce qui lui évite d'être malheureux. Il ne doute pas. C'est une espèce d'intégriste de la vie. Au moins, cet enthousiasme prospectif détournait-il de moi ses ondes les plus négatives? Je n'existais pas non plus. À peine m'a-t-il suggéré, juste avant de refermer la porte, de retourner chez mon mari. Ma vie, semblait-il songer avec un dernier regard de pitié sur mon appartement, mes livres, mon visage, ma vie n'aurait plus beaucoup d'intérêt dès lors que la sienne au bout du monde serait si merveilleuse. Ce n'est pas le tout d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas, la devise est connue. Mais l'enjeu de sa visite s'était inversé pour moi. Je m'en suis rendu vite compte. J'aimais toujours faire l'amour avec Joe, mais je pensais à Chris. La situation était ironique. J'avais rencontré Chris pour avoir des nouvelles de Joe, et maintenant, j'interrogeais Joe pour avoir des nouvelles de Chris. Ce soir-là, j'ai d'ailleurs appris une chose qui m'a assombrie. Chris avait une petite amie, une fille de 20 ans, déjà séparée du père de son bébé de 6 mois. Il l'avait rencontré sur la plage 3 mois plus tôt, mais il se voyait rarement, car il habitait Bordeaux. Et Chris ne se déplaçait pas pour entendre gueuler le bébé d'un autre, pas fou l'animal, à Dijoux. Au moins, il ne l'a pas rencontré sur Facebook, pensais-je, tandis que Joe racontait. J'étais si désemparée que je m'accrochais aux moindres détails positifs. Je voulais que notre histoire, soit différente. En même temps, je ne pouvais pas reprocher à Chris de mener plusieurs amours de front puisqu'il n'était pas question d'amour entre nous, seulement d'amitié. Et encore, d'amitié virtuelle. « Ça va, my new friend ?» m'écrivait-il, par exemple. Ou « Je t'embrasse, mystérieux ami. » La différence d'âge? Dans quel sens? Ah, entre lui et moi? Non. Je pensais que vous parliez de la différence entre Chris et sa petite amie. Lui 36, elle 20. 16 ans d'écart, ce n'est pas rien. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Non, vous me demandez si la différence d'âge entre Chris et moi, 12 ans, était un problème, c'est bien ça? Dans l'autre sens, vous ne poseriez même pas la question. Si j'étais Chris, 48 ans, amoureux d'une femme de 36, ça n'aurait aucune importance. Aucune incidence sur votre réflexion, j'en suis sûre. Vous n'auriez même pas relevé ce détail. Vous voyez, vous touchez là au drame des femmes, un de leurs drames ordinaires. Et vous n'en avez aucune idée, semble-t-il. Alors que c'est votre métier, après tout, l'âme humaine. Ou bien, c'est parce que vous êtes jeune et que vous prenez toutes les femmes mûres pour votre mère. Dans ce cas, il faut vous faire soigner, Marc. Entre parenthèses, vous me faites rire avec votre complexe d'Œdipe que vous nous servez à toutes les sauces. Tuer son père pour épouser sa mère? Pfff, faudrait trouver un autre mythe pour décrire ce qui se passe en réalité. Un homme qui tue sa femme et qui couche avec sa fille, voilà qui serait plus juste, beaucoup plus juste. Fin de la parenthèse. Mais dites-moi, pourquoi une femme devrait-elle passer 45 ans se retirer progressivement du monde vivant? S'arracher du corps l'épine du désir. Ah, l'épine. Vous avez entendu, docteur? Bon, disons plutôt l'écharde, alors. Pourquoi les femmes devraient-elles s'arracher l'écharde du désir alors que les hommes refont leur vie, refont des enfants, refont le monde jusqu'à leur mort? Cette injustice nous dévore très tôt, bien avant d'en avoir l'expérience, nous en avons l'intuition. Il y a quelque chose chez les hommes qui n'est pas limité, je ne parle pas de l'intelligence, qui ne menace pas de se refermer, on le sent même chez des petits garçons, et quelquefois chez des hommes très vieux. Oh, j'ai vu Jean-Pierre Mocky l'autre jour à la télé, se vantait de baiser encore à 80 ans passés. « Je bande toujours », disait-il en lorgnant une comédienne dont il aurait pu être l'arrière-grand-père. Et le public applaudissait. « Je bande toujours, amen ». Vous imaginez une octogénaire dire ça en direct? Dire qu'elle mouille en matant un petit jeune? La gêne que ce serait! C'est irrecevable en réalité. Tandis que les hommes, le monde leur appartient, plus qu'à nous. Le temps, l'espace, la rue, la ville, le travail, la pensée, la reconnaissance, l'avenir. C'est comme s'il y avait toujours un au-delà dans leurs yeux, un arrière-plan qu'ils peuvent apercevoir en inclinant la tête de côté ou en se mettant sur la pointe des pieds. Ça nous dépasse littéralement. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu l'impression d'être l'horizon d'un homme. Mes fils? Oh, quand ils étaient petits, un peu. Mais ils sont adolescents maintenant, ils me dépassent d'une tête. Alors bien sûr que je suis dépassée. Non, pas mon mari, jamais. C'est-à-dire, il était tellement certain d'être mon seul avenir. La femme est l'avenir de l'homme, tu parles. Non mais la blague. Ou alors au pluriel, les femmes, comme des bornes sur le parcours. La différence, c'est que tous les hommes ont un avenir. Toujours un avenir. Un avenir sans nous. Les hommes meurent plus jeunes, peut-être, mais ils vivent plus longtemps. J'ai lu que sur les sites de rencontres, la frontière entre 49 et 50 ans est pour les femmes le gouffre où elles s'abîment. À 49 ans, elles ont en moyenne 40 visites par semaine. À 50 ans, elles n'en ont plus que 3. Et pourtant, rien n'a changé. Elles sont les mêmes avec un an de plus. Vous connaissez ce sketch, je ne sais plus de qui, sur la date de péremption des boîtes de conserve. À consommer jusqu'au 25 mars 2014. Mais qu'est-ce qui se passe donc au fond de cette boîte dans la nuit du 25 au 26? Et nous, les femmes, nous sommes toutes des boîtes de conserve. Du jour au lendemain, impropres à la consommation. Et si j'avais dit la vérité sur ma fausse page Facebook, mis ma vraie photo, sans doute Chris ne m'aurait-il même pas accepté pour ami. En tout cas, il n'aurait pas eu envie de lier intimement connaissance avec une femme de 48 ans. Évidemment que je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas osé la vérité. La catastrophe est venue de là. Au lieu de me moquer de cette injustice, au lieu de la défier, je l'ai intériorisée. Je m'y suis soumise, plus que n'importe quel homme. C'est trop tard maintenant. Ah, vous êtes gentil, vous essayez de vous rattraper? Vous vous enfoncez, en fait. Mais oui, je sais que je ne l'ai fait pas. Je sais qu'un homme peut me trouver belle. Vous me trouvez belle, vous, Marc? Vous n'avez pas le droit de le dire? Merci. Mais pourquoi merci? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Pourquoi est-ce que je ne m'en fous pas complètement d'être trouvée belle? Oh, à ce moment-là, j'étais séparée de mon mari depuis un an déjà. Je l'avais quitté juste avant ma rencontre avec Joe, sans remords et sans scrupules. Je savais qu'il avait ou qu'il aurait vite des femmes de rechange, comme il l'avait toujours fait. D'ailleurs, il s'est remarié. Vous savez, c'est ce genre d'homme dont on dit « il aime les femmes ». Façon plaisante de dire qu'il n'en aime aucune. Il voulait que je reste avec lui pourtant, mais je n'aimais pas du tout ses arguments. « Tu vas vieillir et personne ne... bientôt ne voudra plus de toi », disait-il. « Tu as encore, quoi, 2 ans, 3 ans de bon devant toi ?» Parce que les mecs n'en ont rien à foutre des femmes mûres, Et tu peux bien faire des thèses et des articles et de la gym. Rester brillante et svelte, ça ne sert à rien si tu n'es plus cotée à l'Argus. Tandis que moi, même quand tu seras moche, ridée, flasque, je serai là. Tu pourras me bénir de ne pas t'avoir lâchée. Le narcissisme de la pitié, vous connaissez? Et il avait 3 ans de plus que moi. La peau du torse qui commençait à se friper, et les poils du pubis à grisonner, et le crâne à percer sous les cheveux. Parce que moi aussi, je sais le faire, hein, le montrer comme une pauvre chose vieillissante. Pourtant, c'était de mon agonie qu'il s'agissait. Il m'enterrait en me proposant une cérémonie de première classe. Le sommet de la haine, quand le fossoyeur attend que vous le remerciez de creuser votre tombe. Mais je n'avais pas envie d'être morte. Il m'aurait dit « je t'aime », je serais restée. Enfin, peut-être que non. L'amour, c'est quoi sans le désir? C'est quoi? Comment fait-on? Dites-le-moi, vous. Je n'avais pas envie d'être morte, c'est tout. Même avec des fleurs par-dessus.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Se passe tout doucement dans ses murmures le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Voilà, vous comprenez mieux maintenant? Comprenez comment une quadragénaire bac plus 8, je dis ça pour vos statistiques, vous avez bien quelques grilles à remplir, se retrouve en camisole de force dans cette tragédie, juste parce qu'elle ne voulait pas mourir. Va mourir. Ce que le monde entier dit aux femmes, plus ou moins fort. La littérature s'en fait l'écho du reste. Vous n'avez qu'à lire Welbeck. Vous avez dû le lire, lui. seriez bien le seul. Ou Richard Millet. Je me souviens d'un roman de lui dans lequel une femme décidait de mourir à 44 ans. 44 ans. C'était l'âge, pour elle ou pour lui, où une femme perdait sa beauté et n'avait plus par conséquent qu'à se suicider. Et elle le faisait. C'était ça l'horreur du livre. Le narrateur, son amant, accompagnait tout du long son agonie comme une chose inéluctable, programmée, aussi fatale que la diminution de son désir pour elle. Qu'aurait-il pu faire d'autre que de constater tristement sa déliquescence? Je vous le demande. Quant à Houellebecq, on connaît sa chanson. L'effondrement précoce du potentiel érotique des femmes est inéluctable, puisque lié au seul critère physique dont usent les hommes inéducables depuis des millénaires, tandis que les femmes bien éduquées peuvent être séduites par la richesse, le pouvoir ou l'intelligence. Et pourquoi ne pas éduquer les hommes? Pourquoi sommes-nous condamnés à n'être rien par ceux-là même qui feignent de nous plaindre? Va mourir, c'est la seule devise des hommes pour les femmes, si on creuse un peu, c'est le cas de le dire. Va mourir, dégage, place aux jeunes, place aux hommes. Elles sont d'éternels exclus, des humains de seconde zone. Ah, la belle excuse! N'avez rien d'autre à me servir? Ah oui, vous pouvez rougir. Vous me rappelez ce qu'on me disait, gamine. Mange ta soupe, pense à tous les petits biafrais qui meurent de faim. Oui, alors oui, évidemment qu'il y a pire ailleurs. Disons que c'est plus ou moins métaphorique, ou parfois pas du tout. Parfois c'est réel, va mourir, c'est une injonction réelle, je suis au courant. Croyez que ça me réconforte? Que je devrais me réjouir de ma condition de femme française parce qu'ailleurs elle meurt? Mais comment vivre ici quand là-bas on vous casse les os? Vous avez entendu ce qu'a dit ce type? Là, à Madache? Jamais je n'oublierai son nom, ça rime avec H. Il a dit... Il faut interdire les femmes. J'en suis venu à cette conclusion. Il dit « J'en suis venu à cette conclusion qu'il faut interdire les femmes. » Remarquez, on a eu ça nous aussi en France, un type à la fin du XIXe siècle, du temps de Huysmans, des Goncourt et des grands misogynes de tout poil, un médecin. J'ai oublié son nom, mais son ambition proclamée était d'éradiquer la bestiole à Chignon. C'est plus marrant comme formulation, mais ça ne me fait pas rire du tout. Je voudrais tellement être un homme parfois, ça me reposerait. Ici, vous avez raison, changeons de sujet et restons courtois. Non, ici on me voit, tout le monde me voit ici, alors je reste. En Afrique, je ne sais plus dans quel pays, au Rwanda je crois. Pour dire bonjour, on dit « je te vois », c'est magnifique. Nous, on like sur Facebook, on compte les pouces levés sous nos photos de profil, mais le sens est le même. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas seulement être vu, on veut être bien vu. Alors on se rajeunit, on s'embellit, on se pousse du col, on résiste à l'effacement. On ne veut pas se dissoudre dans la foule, on ne veut pas se perdre. C'est facile à comprendre, je pense. Mais moi, je n'en voulais qu'un. Ça ne m'intéressait pas d'être vue, ni même bien vue, je voulais être reconnue. Que quelqu'un dise « c'est elle », vous savez, comme à la naissance, quand le père reconnaît l'enfant. Ah, ça y est, le psy se réveille, je me disais aussi. Mon père m'a reconnue, oui, bien sûr, qu'est-ce que vous allez chercher? Mais il voulait un garçon, comme tout le monde dans le monde. J'étais la deuxième fille, la déception. Moi, quand je dis être reconnue, je veux dire avec reconnaissance. C'est elle et j'en suis heureux. C'est elle, c'est moi, et notre lien n'est pas réfutable, pas dissoluble, indiscutable, inaliénable. Je te reconnais, je te suis reconnaissant d'exister. J'ai fait le contraire, c'est vrai. Quelle cruauté, Marc. Vous ne me passez rien. Mais c'est vrai. J'ai envoyé la photo d'une autre femme que moi. Je ne risquais donc pas d'être reconnue, vous avez raison. Bon, alors, ok, c'est l'inverse, juste le contraire. je voulais peut-être mourir dans le fond. Une femme est toujours menacée de mort, jamais en sécurité, jamais. Tout au fond d'elle, une insécurité, une dépendance, le féminin. Voir ce que ça faisait alors d'être obligée de mourir. De ne pouvoir vivre qu'à l'état de spectre. Hanter la toile comme derrière un voile. C'est ce que je disais tout à l'heure, la pulsion de mort. C'est comme ça que vous dites ? La pulsion de mort, c'est contre soi ou contre l'autre. On ne démêle pas bien. En même temps, je n'ai jamais été si vivante que pendant ces quelques mois de liaison virtuelle avec lui. Je ne feignais pas d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans. Un reste de mon expérience d'actrice, sans doute, et de la mémoire, et du désir. Je me suis coulée dans mon personnage avec l'aisance des comédiens. Comme il n'y avait pas de texte préétabli, j'ai improvisé à partir de ce que mon partenaire me proposait. J'ai renvoyé la balle. Chaque fois qu'on se parlait sur Facebook, Chris et moi, j'entendais en lui ce que je devais jouer. Je décryptais ma partition en miroir de la sienne. Je devenais son idéal, son alter ego, son rêve de femme, celui que font les hommes les yeux ouverts. Je donnais la réplique, littéralement. Mais ce n'était pas un simple rôle, c'était mon être qui se modelait peu à peu, qui se recomposait par amour. Oui, je crois que le mot est juste, l'amour. Est-ce que ce n'est pas s'aliéner à quelqu'un, tomber en l'autre, ne plus s'appartenir? Et puis, ce personnage n'était pas si éloigné de moi, vous savez. Par exemple, Claire Antounèche n'était pas vraiment douée en informatique, comme moi. Plus de 20 années la séparaient de moi, une génération. J'aurais pu être sa mère. Mais nous avions beaucoup en commun. La timidité, le rêve, la recherche de l'amour liée à un vrai désir de liberté, au moins d'autonomie. Elle gagnait sa vie, ne dépendait pas d'un homme ni de ses parents. Le goût pour l'art, la photo. Et malgré son âge, elle n'avait rien d'une geek, donc. Ainsi, je n'ai pas eu à forcer mon talent pour jouer les idiotes quand Chris m'a proposé de skyper. C'est quoi, Skype ? Il n'a jamais insisté. Je lui plaisais comme ça, un peu out, un peu space, fleur bleue. Un petit être pur qui attendait l'amour. Lui aussi était un inadapté à sa façon. Je le pressentais, mais je l'ignorais encore. C'était « Celle que vous croyez » de Camille Laurence, que vous pouvez trouver en collection NRF ou Folio chez Gallimard. Lors de la pause musicale, nous avons écouté « Les Dormantes » de Zao de Sagazan, dans l'album « La Symphonie des éclairs ». Cette émission était produite par Frédéric Guyon. Pour la suite de ce texte, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h02 sur Bretagne 5. Et je vous souhaite une agréable semaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.